les archives d'Afrique, Alain Focat.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Après la proclamation des territoires de l'AIF en République, il convenait que les responsables de ces territoires se rendent à Paris pour saluer le chef de l'État français et de la communauté que nous venons de créer par ce oui que nous avons tous prononcé. Il convenait également que les responsables de Nouvelle République se rendent à Paris pour remercier le président de Gaulle qui a été le promoteur de cette République, mais il convenait également que les responsables de ces territoires se réunissent pour poser les problèmes qui les intéressent tous, car en répondant oui au référendum, nous avons répondu oui à la communauté avec la France, mais également oui à la communauté africaine, et j'entends par là une unité africaine indéfectible dans l'unité avec la France.
Le petit orphelin aux plaies purulentes et au visage mangé par la variole, recueilli une vingtaine d'années plus tôt et éduqué par des missionnaires, est devenu le personnage le plus important, la première personnalité administrative de l'Afrique équatoriale française. Et même s'il a perdu sa soutane, même s'il a été excommunié par le Vatican qui lui repose son mariage, l'abbé Barthélemy Boganda a eu raison de tous ses détracteurs, de tous ses colons qui jusque-là tenaient tous les leviers du pouvoir et le traitaient, lui et les siens, comme des animaux, comme des esclaves, des sous-hommes. Maintenant, sa légitimité populaire force le respect de ses adversaires qui sont nombreux. Tant dans la communauté des colons d'Afrique équatoriale française, qui voient leurs privilèges menacés, qu'au sein du Parlement français où il dérange, et même au sein de l'Église qu'il a pourtant soutenue à ses débuts. Mais pour Barthélemy Boganda, le chemin est encore long. Son objectif est de libérer son peuple du joug colonial, de lui permettre d'accéder à l'indépendance. Mais avant d'en arriver là, il faut passer par la création des États-Unis d'Afrique latine, une union des territoires de la sous-région d'Afrique équatoriale ayant en partage la langue latine. Nous sommes pourtant en 1956. Bien avant l'éclosion des théoriciens de l'unité africaine qui vont fleurir par la suite à la faveur du vent de liberté qui souffle sur le continent à la fin de la décennie 50. Aujourd'hui de notre série en 6 volets consacrée à Barthélemy Boganda, le premier prêtre d'Afrique équatoriale française qui sera également le premier noir de l'AEF à rentrer à l'Assemblée nationale à Paris en 1946. Un député qui, malgré le peu d'écoute de ses collègues, ne va pas arrêter pendant toutes les législatures qu'il va passer au sein de cette Assemblée de dénoncer le mépris et le traitement qu'infligent les colons à son peuple. Le jeune parlementaire sans appartenance politique, qui siège aux côtés des élus du mouvement républicain populaire, le MRP, va devant le peu d'intérêt qu'accorde ce mouvement à ses plaintes et ses combats, créer son propre parti en 1949. Le MESAN, le mouvement pour l'évolution sociale de l'Afrique noire. Une dénomination qui traduit le champ de son engagement. Pour lui, le combat pour la libération ne doit pas se limiter à un seul pays. Il doit être global, réunir toute l'Afrique noire. Parce que ces poussières d'État ne font pas le poids devant les grands ensembles occidentaux. Et les frontières héritées du partage de Berlin ne répondent pas à une logique ethnique. Elles ne correspondent absolument pas à la réalité des populations de ces territoires.
Je suis né congolais, je suis devenu oubangien et aujourd'hui je ne sais plus ce que je suis. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi le terme République centrafricaine pour désigner ce pays de l'Ubangichari qui est devenu le mien mais encore une fois, je ne suis pas né Oubangien. Quand je suis né, ma région faisait partie du Moyen-Congo et il fut un temps où le territoire de l'Oubangui faisait un seul avec celui du Tchad, puisque nous avions eu le gouverneur de l'Oubangui Chari Tchad qui gouvernait un seul territoire.
Pour le président du Grand Conseil de l'AEF, donc, ces frontières artificielles ne pouvaient constituer une barrière à une large union. Mais à cet instant, à Métropole, le débat est ailleurs. Le général de Gaulle, qui a été rappelé au pouvoir en France en cette année 1958, propose une nouvelle conception des rapports de la métropole avec les peuples africains qui lui sont associés. Il faut dire que des velléités d'indépendance se font de plus en plus sentir. Et l'homme du 18 juin 1940 n'a pas oublié le rôle primordial joué par l'Empire dans la Seconde Guerre mondiale. La victoire est aussi à mettre au crédit de ces territoires qui ont payé un lourd tribut pour libérer la France. Il faut donc choisir entre la Fédération et la Confédération. À titre de compromis, le malgache Tiran, qui fait partie des membres du comité de consultation créé pour la circonstance par le général de Gaulle, propose la communauté qu'il accepte. La communauté qui permettra à chacun de ces territoires d'exercer toutes les prérogatives de l'autonomie interne avec l'aide de la France. Il annonce alors que nul ne s'y attendait qu'il donnera au résultat du référendum sur la Constitution un sens particulier dans les territoires d'outre-mer. Un vote négatif signifierait la volonté d'indépendance immédiate à laquelle il s'engageait à ne pas faire obstacle. Au contraire, un vote affirmatif ouvrirait aux territoires, groupés ou non, la possibilité de constituer avec la France un ensemble communautaire où chacun disposerait de son autonomie, mais où les affaires importantes seraient gérées en commun. Ce risque pris, le général de Gaulle se lance aussitôt dans une longue campagne en faveur du oui. Une campagne qui commence le 20 avril 1958 par Tananarive à Madagascar, où l'attend une impressionnante foule acquise à sa cause. Il faut dire que le président du gouvernement, Philibert Tiran, a bien préparé les populations.
Dans cette organisation nouvelle, Madagascar aura à exercer par ses propres moyens son administration, son gouvernement intérieur. Et si Madagascar le veut, la grande île mettra, comme les autres territoires, à l'intérieur de la communauté, un même domaine pour la défense, pour la politique étrangère, pour la politique économique, pour la politique des matières premières, et aussi, dans certaines conditions, pour la justice, l'enseignement et les communications. En disant oui à ce qui est demandé, vous vous engagerez avec la France et les autres territoires pour un grand avenir, je le répète. Et je suis sûr de votre réponse.
Le général de Gaulle peut effectivement être sûr du choix des populations de Madagascar. C'est donc rassuré qu'il s'envole vers Brazzaville, la seconde étape de sa tournée. Brazzaville, la capitale de l'Afrique équatoriale française, ville symbolique pour l'homme du 18 juin 40. Brazzaville où il proclame et reconnaît le 30 janvier 1944 la dignité et la capacité des peuples de l'Empire. Souvenir.
Et où donc cette conférence devait-elle se réunir, sinon ici à Brazzaville, qui fut pendant de cruelles années littéralement le refuge de notre honneur et de notre indépendance, et qui restera l'exemple du plus méritoire effort français.
Brazzaville est donc pour le général de Gaulle une étape importante et délicate. Surtout que certains dirigeants, notamment Barthélemy Bouganda, excédés par l'attitude des colons qui n'ont littéralement pas tenu compte des engagements pris par lui lors de cette conférence de Brazzaville en 1944, ne semblent pas séduits par cette idée de communauté qu'on leur propose. Ils pensent déjà à l'étape suivante, l'indépendance. Et pourtant, l'accueil réservé au général de Gaulle est des plus cordiaux, des plus chaleureux. Et c'est Barthélemy Bouganda qui prononce un discours où il est surtout question de l'avenir de l'AEF, l'Afrique équatoriale française.
Je vous laisse juge par l'intermédiaire de notre micro de l'enthousiasme de la foule. Tous les drapeaux que les Africains et les Européens massés sur la pelouse tiennent en main se sont dressés. Il y en a des grands, des petits, il y a même des enfants qui agitent des drapeaux. Et voici que M. Barthélémy Boganda, président du Grand Conseil de l'Afrique équatoriale française et maire de Bangui, s'avance au devant du podium, devant les micros, et va prononcer quelques paroles.
Monsieur le Président, au nom de cette foule enthousiaste qui vous acclame depuis 24 heures, au nom des quatre territoires de l'AIF et de leur population, et à mon nom propre, j'adresse au président du Conseil de gouvernement de la République le souhait de bienvenue dans la capitale de la Fédération AFIENNE. Chef du gouvernement de la République, vous avez droit à notre respect. Mais lorsque ce président du Conseil des ministres s'appelle De Gaulle, cela revêt pour l'AIF une autre signification, un sens mystique national, un nom prestigieux, une personnalité qu'aucun parti politique, qu'aucune portion du peuple ne pouvait ni s'attribuer ni monopoliser. Car pour nous, De Gaulle, c'est la France. Et dans l'immense dette de reconnaissance que l'Afrique a vis-à-vis de la France, une grande part revient à celui qui, en même temps qu'il combattait pour libérer la patrie de l'occupation étrangère, réunissait la conférence de Brazzaville pour nous libérer du pacte colonial. Permettez-moi, Monsieur le Président, de saisir cette occasion pour me faire ici l'interprète aussi fidèle que possible du peuple haïtien et témoigner au général De Gaulle notre reconnaissance et notre admiration. Nous sommes convaincus que vous êtes venu aujourd'hui pour achever l'œuvre entreprise à la conférence de Brazzaville et consacrer définitivement, par un engagement solennel, une AIF en marche vers son indépendance, mais toujours unie à la France indépendante et immortelle. Voilà ce que le peuple attend de vous. Cela est possible. Cela est nécessaire. Cela est urgent. Donc, nous devons le faire. Vous êtes, Monsieur le Président, la propriété de la nation, un bien national. Vous avez le droit de placer votre affection à Colombelles-les-Deux-Églises, à Paris et en France métropolitaine. Mais l'AIF, berceau de votre gloire, a aussi droit à vos sollicitudes. Il y a 18 ans, en effet, que pour la première fois, vous êtes venu chez nous lorsque la patrie était menacée de l'extérieur. Nos cœurs avaient alors vibré à l'unisson du vôtre, et sous vos ordres et sous votre étendard, les Haïtiens ont combattu pour l'honneur et la liberté et ont ainsi pour toujours conquis leur droit de cité. Vous êtes donc, Monsieur le Président, l'homme dont la destinée est de calmer la tempête. Nul n'ignore que la tempête qui nous menace est de deux sortes. Dans la métropole, vous avez à réformer les institutions, à relever l'autorité de l'État et le prestige de la nation, à redresser la situation financière. En Afrique, vous avez à calmer le vent d'indépendance qui souffle sur tous les territoires. En vous déclarant cela la semaine dernière, dans votre bureau de l'hôtel Matignon, je ne faisais que remplir mon devoir envers vous et envers la France. Car aujourd'hui, comme en 1940, vous êtes notre dernière chance. Aujourd'hui, comme en 1940, c'est de vous que nous attendons le salut. Aujourd'hui, comme en 1940, l'AIF a hâte d'entendre votre voix. Parlez, Monsieur le Président, parlez sans équivoque. Nous répondrons de même le 28 septembre. Vive De Gaulle, vive la République.
Monsieur Barthélemy Boganda, président du Grand Conseil de l'AIF, vient de prononcer une courte allocution.
Le général de Gaulle va parler sans équivoque comme le lui demande Barthélemy Boganda.
En vérité, jamais la France ne fut plus fière de l'œuvre africaine qu'elle a accomplie. Non, cette œuvre, elle ne la renie pas. Et elle est prête aujourd'hui à la poursuivre, quoique, certainement, dans des conditions tout à fait nouvelles qui sont imposées par l'évolution des peuples et par le mouvement général du monde. Quelles conditions ? En voici deux. La première de ces conditions, c'est qu'il est naturel et légitime que les peuples africains accèdent à ce degré politique où ils auront la responsabilité entière de leurs affaires intérieures, où il leur appartiendra d'en décider eux-mêmes, bref, de se gouverner eux-mêmes. Et le deuxième principe, c'est cette règle qui s'impose à tous les esprits de bon sens, que dans le monde comme il est nécessaire que s'établissent de grands ensembles économiques, politiques, culturels et au besoin des grands ensembles de défense. C'est le deuxième principe que le gouvernement de la République, sous ma direction, met à la base des propositions qu'il va faire dans peu de temps au suffrage de tous les citoyens des territoires d'Afrique et des citoyens de la métropole. Quelle proposition ? Quel est le projet qui va être soumis au choix libre et conscient de tous ? C'est celui de la communauté. Cette communauté aura des institutions. Le président de la communauté, le conseil exécutif de la communauté où se réuniront les chefs de gouvernement avec les ministres chargés des affaires communes et le Sénat de la communauté formé par les représentants de tous les territoires et de la métropole et qui délibérera des affaires communes. Enfin, une cour d'arbitrage pour régler sans heurts les litiges qui pourraient se produire entre les uns avec les autres. Cette communauté-là, je vais la proposer à tous et à toutes ensemble, où qu'ils soient. On dit, mais nous avons droit à l'indépendance. Mais certainement, oui. D'ailleurs, l'indépendance, quiconque la voudra, il pourra la prendre aussitôt.
Professeur Abel Ngoumba, vous qui étiez un des principaux collaborateurs du président Barthélemy Boganda, on sait qu'au départ, il était opposé à cette idée de communauté. Qu'est-ce qui l'a amené à changer d'avis ? Quel est l'argument qui l'a poussé finalement à battre campagne pour le oui ? Déjà, que reprochait-il à cette disposition constitutionnelle ?
Moi, j'étais allé avec lui à Brazzaville le 23 ou le 24 août 1958. Le général de Gaulle revenait de Madagascar, parce qu'il avait effectué un périple de Madagascar jusqu'à retour à...
La grande tournée pour le oui.
Et nous étions au moins 3 ou 4 États comme ça à voter non. Parce qu'il n'y avait pas la disposition de l'indépendance dans le projet de constitution.
Depuis... Mais pourtant on entend dire, parlez général de Gaulle, on vous écoute, parlez, l'Afrique vous écoute.
J'en viens justement. Alors, il avait été écarté de la rédaction du projet de constitution par Oufet Boigny. Vous savez, Oufet Boigny était le président du RDA, Rassemblement démocratique africain, et il était séparatiste. Ils disent, ou on dit oui, on reste dans la communauté, ou alors on dit non, et puis on sort, et il n'y a pas. Et il a, pourtant, en tant que président du Grand Conseil, hein, de l'Afrique équatoriale française, ben, mais, il devait faire partie du comité de rédaction. Mais comme Oufouet Boigny était ministre avec Amadou Diko, le conseiller, ben, il a été écarté. Et nous, nous étions disposés, on a voté non. On a prêché le non ici parce qu'il n'y avait pas ces dispositions de l'indépendance. On voulait bien.
Mais qu'est-ce qui vous convainc alors finalement de voter en faveur du oui?
Oui, mais finalement, on a rencontré le général de Gaulle. Il lui a dit, il a demandé au général de Gaulle, écoutez, il a expliqué, nous voulons bien rester dans la communauté, mais nous ne pouvons pas renoncer à l'indépendance. Parce que c'est un droit absolu. Et nous vous répondrons parce que nous ne voulons pas d'une rupture totale, immédiate, etc., avec la France. Nous voulons être dans la communauté, mais dans une espèce d'interdépendance avec la France. Il faudrait que, à un moment ou à un autre, nous aboutissions à l'indépendance.
Professeur Abel Ngoumba, est-ce que cela signifie qu'après son entretien avec De Gaulle, il va retourner dans les territoires pour demander à ceux à qui il avait demandé de voter non quelques semaines plus tôt, qu'ils doivent changer d'avis pour faire exactement le contraire de ce qu'il leur avait proposé?
Le général De Gaulle revient au pays ici, alors il a réuni... Il a fait des réunions, etc., pour dire aux gens, aux centrafricains, vous vous rappelez que je vous ai demandé de voter non. Oui, parce qu'il y avait la chicotte, etc., et tout. Mais moi, De Gaulle, Bokanda, je suis descendu à Brazzaville, j'ai vu De Gaulle, on était là face en face, et je lui ai posé les questions. Bon, toi, tu as changé de régime en France, là-bas, il y a la communauté franco-africaine, et tu nous demandes de voter oui. Mais ma population n'était pas d'accord. Est-ce que tu vas maintenir, si nous votons oui, tu vas maintenir encore la chicotte? Non. Tu vas supprimer la chicotte? Oui. Le RPF, vraiment, avait une très mauvaise réputation ici, hein. De Gaulle lui a fait la promesse que tous les sévices, tous les maux que le RPF avait commis dans le pays ici seraient supprimés si on disait oui, on marcherait main dans la main et au moment où nous nous sentirions assez forts pour nous diriger nous-mêmes, eh ben, on prendrait l'indépendance. Oui, ils se sont salués, etc. On a dit, bon, d'accord, il a dit au général de Gaulle, bon, au lieu de voter non, moi je voterai oui, parce que vous m'avez mis le baume au cœur.
La campagne référendaire du général de Gaulle est en tout cas un véritable succès. Seule la Guinée de Sékou Touré va répondre non à l'idée de communauté, ce qui va l'amener immédiatement à l'indépendance. Partout ailleurs, le référendum est un véritable plébiscite en faveur de la communauté. Barthélémy Boganda, le président du Grand Conseil de l'AEF, estime que rien ne s'oppose à ce que l'Afrique équatoriale française devienne, avec l'approbation des quatre assemblées territoriales, un État membre de la communauté. C'est son nouvel objectif. L'appellation AEF n'ayant plus aucune raison d'être, Barthélémy Boganda refuse le terme de France équatoriale adopté à l'unanimité par le Grand Conseil en 1947 pour adopter celui de République centrafricaine. Professeur Abel Ngoumba, vous étiez son plus important collaborateur, son vice-président et ministre des Finances et du Plan. Pourquoi adopte-t-il le nom de République centrafricaine?
Boganda voyait l'Union africaine en trois étapes, se réaliser l'Union africaine en trois étapes. La première étape, c'est la République centrafricaine avec les provinces de l'Ubangi-Chari, du Congo, du Gabon, du Tchad, dirigées par des gouverneurs avec un exécutif unique, etc. Les autres ont refusé. Mais il a gardé le terme de République centrafricaine parce qu'on est vraiment au centre de l'Afrique.
Le 8 décembre 1958, c'est la proclamation de la République en Ubangi-Chari, qui rentre dans l'histoire donc sous le nom de République centrafricaine.
Centrafrique, confesse au dépend du jour, prêt à la vie. Longtemps soumis, longtemps brimé par tous, mais de ce jour, brisons la tyrannie. Dans le travail, l'ordre et la dignité, qui reconquièrent pour moi son unité. Pour franchir cette étape nouvelle, que nos ancêtres, la voix nous appelle. Au travail, dans l'ordre et la dignité, dans le respect,
au moment de la proclamation de la République centrafricaine, Barthélemy Boganda songe déjà à la grande idée des États-Unis d'Afrique latine qu'il a toujours caressée. C'est seulement à ce prix que les peuples d'Afrique peuvent survivre, peuvent se développer face aux grands autres ensembles. Les micronations qui se multiplient, les poussières d'États sous-peuplées et sans moyens, comme il les décrivait, n'ont aucun avenir. Tout est dans l'union. Nous en parlerons justement dans une dizaine de minutes dans la quatrième partie de cette série d'archives d'Afrique que nous lui consacrons. Rendez-vous donc juste après une audition de journal sur Radio France Internationale.